J'aimerais que vous imaginiez la scène juste 2 secondes. Vous avez un type qui est assis dans sa cuisine, la maison est en train de brûler, les rideaux sont en feu, la fumée est en train de sortir par les fenêtres, les pompiers sont en train de défoncer la porte, et lui, il regarde le thermomètre accroché à son mur, il sourit et il dit « Ah, bonne nouvelle, la température a baissé le mois dernier ». Ce type aujourd'hui, c'est le marché, la bourse mondiale, c'est comme ça que ça s'est passé cette semaine. Bienvenue dans ce Swiss Bliss. On est samedi matin, vous avez votre café. Moi, j'ai passé la semaine à regarder les marchés financiers faire un numéro d'équilibriste comme j'en ai rarement vu en plus de 30 ans de métier. Et je suis aussi revenu à la maison. Je suis Thomas Bayet et nous sommes le 18 juillet 2026.
Cette émission vous est présentée par SwissQuote.
Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Alors, on en est où ? Je vous avoue que j'ai passé plus de temps dans les avions que devant mes écrans cette semaine, donc par moments, j'ai un peu l'impression d'avoir raté 2 mois de bourse et une avalanche d'informations hyper importantes. On va donc essayer de faire le point et remettre l'ouvrage sur le métier pour être bien à jour pour la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, il va encore y avoir du sport, même s'il n'y aura plus la Coupe du Monde. Donc, d'un côté, on a une guerre qui repart de plus belle entre les États-Unis et l'Iran, un détroit d'Hormuz qui est transformé en zone de péage militarisée et un baril de pétrole qui prend 16% en 5 séances. Hier soir, le WTI a terminé sa semaine à 82,47 $. Le Brent est à 88,10 et c'est bien joli d'avoir sorti des chiffres de l'inflation qui montraient que ça allait mieux, sauf que là, quand on sait que le WTI valait 67 et des poussières le 2 juillet, on peut se poser des questions sur la validité et l'intérêt des chiffres du CPI qui ont été publiés et tout ce qu'on en a pensé. Oui, parce qu'en plus du brut qui explose sur la semaine, on a eu les chiffres de l'inflation. Et c'est l'autre sujet de la semaine. Enfin, un des autres sujets de la semaine. Non, parce qu'il faut bien retenir quand même que c'est quand même un événement, puisque pour la première fois depuis un bon moment, on a eu des chiffres d'inflation américains, le fameux CPI, qui ressortent en baisse sur le mois. Et Wall Street a applaudi comme si on venait de lui annoncer la fin de tous ses problèmes. Sauf que pendant qu'on applaudissait, eh bien, ça tirait dans tous les sens au Moyen-Orient et le pétrole, il est reparti à la hausse. Alors, même si dans l'esprit du monde merveilleux de la finance, on pense que toute cette histoire de guerre va se régler d'ici les midterms, parce que Trump n'a pas le choix, la validité du CPI de cette semaine est tout de même sacrément remise en question. Et au milieu de tout ça, la toute grande passion de ces 24 derniers mois, l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs, les puces à mémoire, tout ce qui a fait monter les marchés depuis 10 mois, est en train de se faire démonter propre en ordre. Moins 20% depuis le top du mois de juin sur l'indice des semi-conducteurs, le fameux SOX. Techniquement, on appelle ça un bear market. Émotionnellement, on appelle ça une rupture, un divorce, un adultère. Même si vendredi, on a tenté de sauver l'immeuble à la dernière minute, on est quand même assez mal sur le graphique. Et je ne suis pas sûr qu'on se sentira beaucoup mieux lundi matin à l'ouverture du marché coréen qui, je le rappelle, était fermé vendredi alors que le marché des puces mémoire, lui, était en pleine déroute. Alors installez-vous parce que cette semaine, il y a de la guerre, de l'inflation, un nouveau patron de la Fed qui témoigne à Washington, des banques qui impriment du cash, un dinosaure de l'informatique qui vient de vivre sa pire journée en 58 ans et une bourse suisse qui, pendant que tout le monde panique, termine la semaine en hausse, tranquillement. En mode Swiss Bliss carrément. Maintenant qu'on a planté le décor, on peut commencer à creuser un peu dans le détail. Et on commence avec le sujet le plus grave, mais qui étonnamment ne semble pas concerner le monde merveilleux de la finance. Enfin, pas pour l'instant. Commençons donc par le sujet qui sent le kérosène, l'Iran. Depuis le 7 juillet, la guerre entre Washington et Téhéran est donc repartie de plus belle. Officiellement, il y avait un cessez-le-feu depuis le printemps, un protocole d'accord signé mi-juin, mais ce genre de papier qu'on signe avec un stylo doré devant les caméras de CNN et qu'on déchire 3 semaines plus tard. Lundi, Donald Trump a donc rétabli le blocus des ports iraniens, et comme un blocus apparemment ça manquait de panache, il a rajouté une idée dont lui seul a le secret, une taxe de 20% sur la valeur des cargaisons pour tous les navires qui veulent traverser le détroit d'Ormuz. Le détroit par lequel transitait avant la guerre un cinquième du pétrole et du gaz mondial, transformé en autoroute à péage. Il manquait plus que le badge télépéage et la petite barrière orange qui se lève quand on arrive. Résultat immédiat, le Brent a pris 9,6% en une seule séance lundi dernier. Même au tout début du conflit, en février, on n'avait pas vu ça. Le baril a fini la semaine à 88$, en hausse de 16% sur 5 jours, pendant que les États-Unis bombardaient l'Iran pour la 6e nuit consécutive. Que Téhéran ripostait sur des bases du Golfe, d'une centrale électrique était touchée au Koweït et qu'un navire se prenait un projectile non identifié au large d'Oman. Les gardiens de la Révolution ont qualifié le détroit de ligne rouge infranchissable, le Pentagone a répondu en substance « c'est pas vous qui décidez » et le trafic maritime de Hormuz est tombé à des niveaux de temps de guerre. Oui, parce qu'en fait, c'est la guerre. Petit détail savoureux, mardi soir, Trump a tout de même abandonné sa taxe de 20%. Comme ça, entre deux frappes, le marché a même trouvé ça rassurant, pendant un petit instant. Voilà où nous en sommes. On se réjouit qu'un projet de raquette maritime internationale soit annulé au bout de 24 heures. La barre du soulagement n'a jamais été aussi basse, aussi facilement atteignable. Et puis alors, sujet suivant, l'inflation qui ralentit. Applaudissements. Mais personne n'a lu la photo qu'on a prise sur l'inflation. Donc pendant que le Moyen-Orient s'embrasait, mardi matin est tombé le chiffre de la semaine, l'inflation américaine, le CPI du mois de juin. Et là, surprise, 3,5% sur un an contre 4,2% en mai, c'est génial! Nettement mieux qu'attendu. Sur le mois, les prix ont même carrément baissé de 0,4%, la plus forte baisse mensuelle depuis avril 2020. Le lendemain, rebelote avec les prix à la production, 5,5 contre 6%, là aussi mieux que prévu. Wall Street a sabré les champagnes, la probabilité d'une hausse des taux fin juillet s'est effondrée de 31% à 11% en une semaine. Les rendements obligataires se sont détendus, le 10 ans américain est redescendu vers 4,55. Tout le monde s'est congratulé, tout le monde s'est tapé dans le dos. Mais bon, pour être franc, on s'est emballé pour juillet. Hein. Mais on reste quand même convaincu que ça montera cette année, les taux d'intérêt. Mais ça, on l'a pas dit fort. Oui, parce que les taux vont quand même monter. Pas en juillet, d'accord, mais ils vont monter. Ils monteront parce qu'il y a un léger problème de calendrier dans tout ce qu'on nous a donné. Un chiffre, un détail. Ces chiffres magnifiques, ils ont ralenti grâce à quoi ? Grâce à la baisse des prix de l'essence en juin, avant que le pétrole ne rebondisse de 16% en une semaine depuis lundi dernier. Autrement dit, le marché a passé la semaine à célébrer une photo de vacances qui a été prise avant l'incendie. Le CPI de juin, c'est le bulletin météo d'avant la tempête, d'avant la canicule. Et la tempête, elle est déjà là. Elle s'appelle le Brent à 88,10$ vendredi soir. Et elle va se retrouver dans les chiffres de juillet, aussi sûrement que le lundi vient après le dimanche. Mais le marché s'en fiche. Le marché voulait une bonne nouvelle. Il en a eu une, il l'a prise. On ne discute pas avec un homme qui a soif. Au milieu de cette euphorie sélective, il y avait un homme qui, lui, ne sabrait rien du tout. Il s'appelle Kevin Warsh. C'est le nouveau président de la Fed, auditionné mardi devant la commission bancaire de la Chambre des représentants. Et le monsieur est venu avec un message hyper simple. Il a dit « Si nous menons la politique adéquate, et nous le ferons, la flambée d'inflation des 5 dernières années appartiendra au passé. » Bon, il n'a pas dit quand, hein. Mais traduction pour ceux qui ne parlent pas le banquier central couramment, il a dit « Je ne baisserai rien du tout tant que ce truc n'est pas mort et enterré. » Le même Warsh avait déjà prévenu il y a quelques semaines à Sintra que ceux qui pensaient que la Fed se satisferait d'une inflation au-dessus des 2% seraient bien déçus. Et lundi, un autre responsable de la Fed avait carrément évoqué une hausse des taux à court terme si l'inflation repartait dans le mauvais sens. Vous voyez le tableau ? Le marché rêve d'une Fed gentille, câline, et se retrouve avec un shérif qui astique son étoile pendant que le pétrole flambe. Donc si le brut reste là où il est, l'inflation de juillet va remonter et le discours de Warsh va passer du statut de posture à celui de programme. Ça, c'est le rendez-vous du mois d'août. On s'en souviendra, on en reparlera dans 3-4 semaines. Le sujet suivant, c'est les banques qui se gavent comme toujours quand les marchés commencent à bouger. Parce qu'il ne faut jamais oublier une règle d'or de la finance, quand les marchés paniquent, quelqu'un, quelque part, encaisse les commissions. Et donc, c'est les banques. Oui, ce quelqu'un cette semaine, c'était les grandes banques américaines qui ont ouvert la saison des résultats mardi. Goldman Sachs prend 9% sur la séance, JP Morgan, Bank of America, résultat très solide, le carburant La volatilité, évidemment. Chaque secousse de marché, c'est du trading. Et une avalanche d'opérations boursières, dont la cotation historique de SpaceX le mois dernier. Les banquiers d'affaires ont donc facturé la fusée, si j'ose dire. Wells Fargo et Citigroup ont fini dans le rouge, prise de bénéfices et inquiétude sur les coûts, mais globalement, le message est limpide. Le casino tourne à plein régime et le croupier ne perd jamais. Et puis mardi, il y a eu IBM. Alors accrochez-vous, moins 26% en une séance. La pire dégringolade boursière du groupe en 58 ans. Un dinosaure de 110 ans qui se prend le pire gadin de sa vie moderne un mardi de juillet. Juste comme ça. La raison ? Bah, le patron Arvind Krishna l'a dit lui-même avec une franchise qui mérite presque le respect. Nous avons failli à notre tâche. Nous ne nous sommes pas adaptés et nous n'avons pas agi assez rapidement. Les clients réorientent massivement leur budget vers les serveurs, le stockage, la mémoire, tout ce qui nourrit l'intelligence artificielle. Et IBM, sur ce marché-là, n'est nulle part. La vague du siècle est passée et IBM était sur la plage avec un seau et une pelle. C'est une histoire presque shakespearienne en fait. Hein. L'entreprise qui a inventé l'informatique moderne est larguée par la révolution informatique suivante. Retenez cette image parce qu'elle raconte les deux faces de la même pièce. L'IA détruit ceux qui la ratent et cette semaine, elle a aussi commencé à faire douter ceux qui l'ont quand même. Et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé de cette IA cette semaine, vous avez remarqué. Parce que le vrai feuilleton de la semaine, le fil rouge, la série dans la série, c'est la déroute des semi-conducteurs. Et je pèse mes mots. L'indice, le SOX, hein, le Philadelphia Semiconductor Index, a perdu plus de 13% sur la semaine, sa pire semaine depuis avril 2025. Il est en baisse de 20% depuis son sommet du 22 juin. 20%, c'est donc la définition technique du bear market. Le secteur qui portait littéralement le marché mondial sur ses épaules est officiellement en marché baissier. Et le plus fascinant, c'est comment c'est arrivé. Parce que c'est pas arrivé sur des mauvaises nouvelles. Non, c'est arrivé sur des bonnes nouvelles. Jeudi, TSMC, le plus grand fondeur de puces du monde, a publié un bénéfice net record en hausse de 77% sur un an. Et il annonce 100 milliards de dollars d'investissement rien qu'en Arizona. Des chiffres somptueux et la réaction du titre, il baisse. Réaction du secteur, tout le monde a vendu et tout le monde s'est fait défoncer. Séoul perdait 6,37% jeudi, après avoir déjà lâché près de 9% lundi, tout en ayant été fermé vendredi. Heureusement pour eux, SK Hynix et Samsung dévissaient, Tokyo perdait pratiquement 3%, Nvidia, Broadcom, Micron, Marvel, tous se sont fait massacrer à leur hauteur. Mercredi, ASML avait publié un bénéfice en hausse de 26% et relevé ses perspectives. Résultat, le titre a fini la semaine en baisse, plombé en plus par une info selon laquelle ASML voudrait augmenter ses prix. Les coquins, augmentez ses prix quand la croissance de la demande ralentit et que vos clients sont valorisés comme des demi-dieux. Disons que le timing était audacieux. Et vendredi, cerise sur le gâteau, Nvidia a perdu brièvement, mais quand même, son titre de plus grosse capitalisation boursière mondiale au profit d'Apple, une première depuis mai 2025. Le roi a vacillé sur son trône à 4 800 milliards contre 4 900. Ajoutez-y le lancement vendredi d'un modèle d'IA par le chinois Moonshot AI, présenté comme une alternative moins coûteuse au modèle américain, et tout le monde a eu un flashback DeepSeek, ce moment de début 2025 où une start-up chinoise avait démontré qu'on pouvait faire pareil pour moins cher et fait trembler toute la cote. Si l'IA devient bon marché, à quoi serviront les 1000 milliards de dollars de dépenses d'investissement prévues l'année prochaine, rien qu'aux États-Unis? C'est la question. À 1000 milliards, personne n'a la réponse. Et quand personne n'a la réponse, on vend d'abord et on réfléchit ensuite. Alors mettons juste les chiffres sur la table pour terminer. Sur la semaine, le Dow Jones a perdu 0,9%, le S&P 1,6% et le Nasdaq s'enfonçait de 2,9%. Pendant ce temps, 90% des sociétés du S&P 500 qui ont publié ont battu les attentes et les analystes ont relevé leurs prévisions de croissance des bénéfices à 26%. Oui, vous avez bien entendu, les résultats sont excellents, les prévisions sont excellentes et le marché, il baisse quand même. Et un marché qui monte sur des mauvaises nouvelles, c'est un marché euphorique. Un marché qui baisse sur des mauvaises nouvelles, c'est un marché qui a un problème. Et son problème, c'est pas les bénéfices, c'est la foi. Et pendant ce temps-là, la Suisse. Le paradoxe qui donne son nom à cette émission, pendant que le monde entier vendait, la bourse suisse, le SMI, a terminé la semaine en hausse. Le SMI a clôturé vendredi à 14 343 en progression sur la semaine avec une dernière séance à plus 0,54 pendant que le Nasdaq perdait 1,4%. Pourquoi ? Eh ben oui, bah parce que quand la planète a peur, elle achète exactement ce que la Suisse vend depuis toujours, de la bouffe, des médicaments et des assurances. Nestlé, Novartis, Roche, les assureurs, Swiss Re, Zurich, Swiss Life, tout ce beau monde a fini la semaine en super forme. Pas de Nvidia chez nous, pas de drame. Le SMI, c'est l'assurance vie du portefeuille mondial. Personne n'en parle dans les dîners mondains, mais quand ça sent le cramer, tout le monde se souvient où ça se trouve. On attaque maintenant les performances de la semaine. Donc, vous le voyez, sur la semaine, eh bien, le pétrole a pris 15,52%, le WTI. Le Dow Jones des transports est en hausse de 2,46%. Le Hang Seng prend encore 1,6%. Le FTSE monte de 1% et la Suisse prend 0,76% sur la semaine, comme on vient d'en parler. Le CAC est à l'équilibre, pile poil. Et de l'autre côté, alors, les semi-conducteurs ont perdu 10% sur la semaine. C'était le bain de sang. On en a bien parlé largement et on en reparlera certainement la semaine prochaine. Vous voyez que la Chine s'est fait massacrer également. Le Nikkei, on prend pour son grade. Le KOSPI n'est pas sur la liste, mais c'est pareil aussi de ce côté-là. Et puis l'or est sous pression parce qu'effectivement, comme on parle de hausse des taux, c'est jamais des bonnes saisons pour l'or. Du côté du SMI, donc le vainqueur de la semaine, c'est la compagnie financière Richemont. On va en reparler tout à l'heure dans les vedettes de la semaine. Swiss Re prend 4,3%. Vous avez Nestlé qui prend 2,87%, Swisscom 2,51%, Novartis 0,58%, Roche qui traîne un peu la patte avec une baisse de 0,71% sur la semaine. Et puis alors ABB qui se prend une taule de 5,24% après de très bons chiffres, mais un takeover au passage qui a tout remis en question. Ça aussi, on en parle dans 2 minutes. On passe maintenant au graphique, au chart de la semaine. Donc vous voyez le SMI, je viens de vous le dire, on termine la semaine en hausse. On n'est pas au plus haut de tous les temps, mais on y va gentiment. Hein. Gentiment, vous voyez qu'on est en train de retester de nouveau cette résistance. On est en train de la passer, probablement. Et si ça continue avec ces tensions comme on a sur le marché américain, sur la tech, probablement que le SMI est dans un triangle ascendant et on devrait casser en direction des 15 000 tout prochainement. Donc tout va bien pour le marché suisse. Du côté des États-Unis, voilà le S&P 500, ça représente un graphique qui ne peut plus en avant. On voit qu'on essaye, mais on n'arrive pas. À chaque fois, on essaye de tirer plus haut, mais boum, on se fait retaper sur le crâne. Depuis qu'on a fait le top début juin, eh ben, on a fait une tentative qu'on a échouée mi-juin, et puis alors depuis, on bute sur les 7600 et sur le S&P 500. Encore une fois, cette semaine, on est allé chercher ce niveau en se disant hey, « peut-être que ça peut passer ». Eh ben non, ça passe pas malgré les bons résultats des bancaires. Il va falloir beaucoup plus que ça pour retrouver la niaque. Et vous constaterez aussi que on est en train de casser la moyenne mobile des 50 jours, la moyenne bleue ici, et donc ça, c'est pas non plus un bon signe, surtout en fin de semaine. Comme on en a largement parlé, eh bien, la grosse victime de la semaine, c'est la tech. Hein, vous voyez que le Nasdaq a pris cher sur la semaine, 3 séances pourries. On s'est bien retourné en fin de séance vendredi. On voit que les gens ont quand même clôturé les shorts. Et puis on se dit, on ne sait jamais, Trump peut nous sortir un truc en fin de week-end. Vous voyez qu'on a fait un espèce de bottom pour l'instant, un double bottom sur le Nasdaq. Mais là aussi, on a cassé les 50 jours. Si ça empire la semaine prochaine, on va aller directement chercher les 26 336, autrement dit, la moyenne des 200 jours. Le SOX, bain de sang de chez bain de sang, vous le voyez, hein, donc la tôle monumentale, on en a parlé largement. Pour l'instant, vous voyez qu'on a un espèce de rebond qu'on avait fait autour des 11 000, enfin des 10 894 pour être précis. Peut-être qu'on va aller rechercher ça et tenter le rebond, mais là aussi, on a cassé. Ça pourrait très rapidement aller chercher les 8 980, là aussi la moyenne mobile des 200 jours. Vous voyez qu'on est toujours très content quand on vit ces phases-là, comme on a vécu à l'époque, mais on sait aussi que c'est très faible dans la puissance, ce qui veut dire que ça peut rapidement être effacé. Et donc, si on venait combler le gap qu'on a laissé ici, je vous laisse imaginer ce que ça ferait si le SOX revenait chercher les 8000, ce qui est techniquement assez facile par rapport à l'explosion qu'on a eue ces derniers temps. Et puisqu'on parle des semi-conducteurs, vous avez donc le KOSPI, je le montre rarement dans ces vidéos, mais voilà, on va falloir en parler. Vous voyez que le KOSPI, il a déclenché un magnifique trend descendant depuis le 19 juin, depuis que je suis parti en vacances d'ailleurs, c'est marrant quand même. Je suis parti en vacances le 20 juin, et donc c'est là où on a fait le top, plus ou moins. Et depuis, on n'a plus jamais regardé en arrière. Vous voyez que le trend descendant est bien marqué, et comme je vous le disais, le KOSPI, la Corée était fermée vendredi pour cause de jours fériés, donc autant vous dire que l'ouverture de lundi matin risque de se faire dans un état proche de l'Ohio. Vous voyez que là, on n'est pas très loin de la moyenne mobile des 200 jours. Hein. Ça commence à puer sur le KOSPI. Il faut dire que quand vous enlevez Samsung et Hynix, il ne reste pas grand-chose dans l'indice coréen. Petit coup d'œil sur le Japon qui s'est fait défoncer vendredi également, c'est le Nikkei là. Vous voyez que vendredi on était cherché très très bas avant de limiter la casse en clôture, mais là aussi ça montre qu'il y a des vendeurs et ils se sont rachetés en fin de séance. Mais s'il n'y a rien de neuf sous le soleil lundi, il n'est pas exclu que les choses continuent à taper et puis ça risque d'aller chercher rapidement beaucoup plus bas. Donc on est un peu dans une zone de méfiance et j'en profite pour vous dire quand même, parce qu'il y a plein de gens qui me reprochent d'être trop négatif, je ne suis pas négatif, je raconte juste ce que je vois et je raconte des histoires. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, eh ben, les charts, on peut faire ce qu'on veut, mais pour l'instant, ils ne sont pas très très beaux. Alors si vous êtes méga bullish, vous pouvez racheter maintenant parce que ça va forcément exploser. Mais il y a quand même pas mal de doutes qui planent sur le marché à l'heure actuelle. Le DAX, lui, va dans tous les sens, nulle part pour l'instant. Vous voyez que ça ne veut démarrer de nulle part. On est à 24 700 plus ou moins. On a une résistance sur les récents plus hauts à 25 886 pour l'instant. Il ne se passe pas grand-chose en Allemagne. Les Français, ils ne sont plus dans la Coupe du Monde. C'était le 14 juillet la semaine passée. Là aussi, il ne se passe pas grand-chose. On attend la BCE cette semaine. Donc, il y a un peu de tension sur l'Europe pour l'instant. Et l'Europe se concentre sur ce qui se passe entre les États-Unis, l'Iran et la techno pour le moment. L'or qui continue de baisser. Donc, je vous l'ai dit plusieurs fois cette semaine et on le répète un peu partout. Hein, quand vous êtes dans des phases de hausse des taux, ou de marchés qui risquent de voir les taux monter, forcément, l'or qui ne rapporte rien et qui ne paye pas de coupons, c'est pas le truc le plus populaire. Et puis alors, on termine avec le champion de la semaine, le WTI. Ici, vous voyez qu'on est passé, donc vous voyez, le 2 juillet, on était à 67 et des brouettes, et aujourd'hui, donc on est à 81,78 sur ce futur-là en clôture. Donc voilà, c'est un petit peu délicat. Techniquement, ça ne veut pas dire grand-chose puisque forcément, c'est quand même très, très, très manipulé par ce qui se passe dans le golf. On attend de voir ce qui va tomber dimanche soir puisqu'on peut certainement s'attendre à une annonce de la part de Trump. Donc surprise, mais en tous les cas, c'est très, très fort et c'est vu ce qu'on voit pour l'instant à l'heure où je vous parle, samedi matin à 10h, c'est encore vachement compliqué. Du côté du détroit d'Hormuz, ils ne sont pas vraiment en train de se faire des déclarations d'amour. On attaque le chapitre des vedettes de la semaine. Trois valeurs du SMI ont fait le spectacle cette semaine. Trois histoires très différentes. On en parle donc tout de suite et on commence avec Richemont, avec qui Cartier ne connaît pas la crise, littéralement. Mercredi, le groupe Genevois a publié ses ventes trimestrielles, plus 17%. 17% de croissance avec une guerre au Moyen-Orient, une Chine toujours convalescente et un marché mondial en pleine crise de nerfs, porté une fois de plus par la joaillerie. Le titre s'envole de 6,7% sur la news et embarque tout le luxe européen avec lui, Kering, LVMH, Hermès, qui publieront dans une semaine toute cette équipe. Tout le monde monte. Et même Swatch prenait 3,4% par simple effet d'aspiration. La leçon est presque philosophique. On peut douter de l'IA, on peut douter de la Fed, on peut douter de la paix mondiale, mais on ne doute jamais de la capacité des ultra-riches à s'acheter des colliers, des montres et des sacs à main. Les bombes tombent sur Hormuz et les rivières de diamants continuent de couler chez Cartier. C'est peut-être ça l'actif refuge ultime. Petit bémol quand même, vendredi, le titre a rendu 1,6% parce que même les diamants n'échappent pas aux prises de bénéfices. Le graphique se passe de commentaires, vous voyez qu'il ne se passe pas grand-chose et puis tout d'un coup, il se passe beaucoup de choses et donc ça a littéralement explosé. On est passé de 182 à quasiment 197 en quelques minutes lors de l'annonce de ces ventes qui étaient exceptionnelles chez Richemont. Le graphique est toujours dans une tendance haussière pour l'instant, donc on est bien inscrit là-dedans. Donc ça devrait continuer à bien se comporter, surtout qu'il y a encore pas mal d'autres joueurs du secteur du luxe qui pourraient arriver derrière et corroborer cette histoire de retour des riches qui reviennent dépenser dans les machins très très chers. La vedette numéro 2, c'est ABB, et là, c'est l'histoire inverse. Jeudi, le géant de l'électronique publie un deuxième trimestre superbe, commandes et chiffre d'affaires en forte accélération, porté notamment par la demande d'équipement pour les centres de données. Tout va très bien, et puis, dans la foulée, ABB annonce le rachat surprise du britannique Rotork pour 5,5 milliards de dollars, avec une prime de 60% sur le cours moyen des trois derniers mois. À Londres, Rotork s'est envolé de 66%. À Zurich, ABB a perdu quasiment 6%. Le marché a donc regardé l'addition et a fait la grimace. Payer 60% de prime cash sans prévenir personne, c'est le genre de choses qui donne des sueurs froides aux actionnaires, même quand la logique industrielle se tient. Et elle se tient. Électrification, automatisation, gestion des flux, tout ce dont le monde de l'IA et de l'énergie a besoin. Mais voilà, en bourse, une bonne stratégie annoncée par surprise, ça reste d'abord une surprise. Et le marché déteste les surprises, même emballées dans du papier cadeau. Là aussi, le graphique se passe de commentaires. Bon chiffre, et puis méchant takeover. Résultat, grosse claque. Mais encore une fois, hein, c'est peut-être cher, 66% sur Retorque. Mais le titre va bien, la société va super bien, ils sont hyper bien positionnés. Donc c'est plutôt une opportunité d'achat, à mon sens, sur ABB. Et puis alors, pour la bonne bouche... Voici Retorque. Alors, petite pensée à ceux qui se sont amusés la semaine dernière à acheter du Retorque ici et qui se sont réveillés le lendemain avec du Retorque ici. Hein. Vous voyez quand même que c'était bien rigolo toute cette histoire. 66% de prime, c'est une belle chose et il faut remercier surtout ceux qui étaient bien informés s'il y en avait. Vedette numéro 3, UBS, qui a passé la semaine à faire l'ascenseur au rythme de Wall Street. Mardi, porté par les résultats somptueux de ses concurrents américains, la banque aux trois clés s'est envolée de 3,7% et finissait comme meilleure valeur du SMI. Logique de marché, si Goldman se gave, UBS doit forcément se gaver aussi quelque part. Et puis vendredi, retour sur terre, moins 2% dans un mouvement général de défiance envers les bancaires et de prise de bénéfices en fin de semaine. Entre-temps, la banque a annoncé le remboursement anticipé de deux obligations pour 3,75 milliards de dollars, signe d'un bilan plutôt confortable, soit dit en passant. Mais l'histoire de la semaine, c'est surtout ça, l'UBS n'a pas publié un seul chiffre et le titre a frais. Plus 3,7% et puis moins 2%, la banque est devenue un produit dérivé sur l'humeur de Wall Street à l'heure actuelle. Et ses propres résultats arrivent très bientôt. On verra alors si le sous-jacent vaut le dérivé. Et puis alors, il y a tout le reste de la cote. Et c'est le en vrac du jour, la cote helvétique, hein, bien sûr. Alors accrochez-vous, on fait ça au rythme d'un aiguilleur du ciel. Un jour de grève. La fusée de la semaine, c'est Georg Fischer, plus 14% vendredi après avoir relevé ses objectifs annuels pour sa division tuyauterie. Pendant que l'IA s'effondre, les tuyaux chafouzois explosent. Je vous laisse méditer là-dessus. Doc Morris n'est pas mal non plus, plus 17% lundi sur une recommandation d'achat de Deutsche Bank, puis encore 2,7% mercredi avec des ventes trimestrielles au-dessus des attentes. Deutsche Bank était visiblement bien informé. La pharmacie en ligne renaît de ses cendres pour la énième fois. Adecco a pris 5,8% vendredi sur un relèvement d'objectifs de la part d'Exane. Sando a fini la semaine en beauté. Meilleure valeur du SMI vendredi à plus 3%. Emskemi a gagné 3,6% parce que Kepler est passé de vendre à conserver. Quand l'analyste passe de fuyer à beauf, le titre prend 3,6%. C'est dire le niveau d'exigence que nous avons aujourd'hui. Sentiel a bondi de 11% sur une première commande américaine. Et Stadler Rail a signé des contrats en Allemagne et 21 trams pour Austin au Texas, des trams suisses au Texas. Côté douleur maintenant, Partners Group a vécu une semaine étrange. Lanterne rouge du SMI jeudi à moins 6% avec son point d'activité. Puis rebond vendredi malgré une pluie d'abaissement d'objectifs de cours. Flughafen Zurich a reculé de 4,2% sur des chiffres de passagers décevants. En même temps, avec un baril à 88$ et des missiles au-dessus du Golfe, l'envie de voyager se discute un peu plus longuement. Avolta a lâché 5,3% sans la moindre nouvelle, ce qui est toujours un peu vexant. DKSH a plongé de 4,6% avec des ventes en recul. Ritter a perdu 5,2% après avoir creusé sa perte semestrielle. Autoneum a passé des 4,5% parce que UBS l'a downgradé. Et Software One a trébuché de 3,4% en annonçant son nouveau directeur général unique. Bon, maintenant on va prendre 3 pas de recul, même si j'ai pas beaucoup de place pour prendre du recul, parce que cette semaine elle mérite quand même qu'on la regarde droit dans les yeux. Ce qui s'est passé ces 5 derniers jours, c'est pas une correction technique, c'est un test de foi. Depuis des mois, ce marché repose sur un credo unique, l'IA justifie absolument tout. Les valorisations, les 1000 milliards de capex, les multiples délirants, absolument tout. Et cette semaine, pour la première fois, le mécanisme s'est enrayé de façon visible. TSMC publie des résultats records. Le secteur est en baisse. ASML bat les attentes. Le secteur est en baisse. 90% des entreprises battent le consensus. Les indices baissent. Quand les bonnes nouvelles ne font plus monter le marché, c'est que le prix de la perfection était déjà payé auparavant. Ceux qui ont connu 1999 reconnaîtront le parfum, ce moment précis où les résultats sont magnifiques, où les titres baissent quand même, parce que magnifique, c'était déjà dans les cours. Une note d'un analyste, cette semaine, comparait l'IA à l'industrie automobile d'il y a un siècle. Quelques survivants glorieux, des dizaines de cadavres et une confiance globale excessive. En 1910 aussi, l'automobile était l'avenir, et c'était vrai. ça n'a pas empêché 90% des constructeurs de faire faillite et de disparaître. Et pendant que la foi technologique vacille, le marché s'est construit un déni géopolitique absolument somptueux. Le pétrole a pris 16% en une semaine, le détroit le plus stratégique du monde est un champ de tir, et Wall Street célèbre des chiffres de l'inflation calculés avant la hausse du pétrole. C'est un déni à double détente. On ignore la guerre et on fait des statistiques que la guerre a déjà rendu obsolète. Le piège est quasiment visible à l'œil nu. Si le brut reste à ses niveaux, l'inflation de juillet remonte. Kevin Warsh, qui n'a jamais caché son jeu, se retrouve avec la justification parfaite pour durcir le ton, et le marché découvre qu'il n'y a pas de filet en dessous du trapèze. Et pas de fait put avec un shérif pareil. En 2007 aussi d'ailleurs, le marché montait pendant que les fondations craquaient en se répétant que le problème était contenu. Le problème n'est jamais contenu, le problème est juste patient. Et puis, il y a le signal le plus discret et peut-être le plus parlant, la rotation. Cette semaine, ce qui a monté, c'est l'énergie, l'immobilier, la consommation défensive, les assureurs, Nestlé, Sandeau et le SMI. L'argent intelligent ne sort pas du marché. Il va se faire voir ailleurs. Il quitte les étages panoramiques du gratte-ciel technologique pour s'installer au rez-de-chaussée, beaucoup plus près des sorties de secours. La Suisse qui surperforme. Historiquement, ce n'est pas un signal d'achat sur la Suisse. C'est simplement un signal de peur sur tout le reste. Alors, est-ce que c'est le retournement? Est-ce que c'est le top? Personne n'en sait rien. Et méfiez-vous de ceux qui prétendent le contraire. Le secteur des semi-conducteurs affiche encore 65% de performance depuis le début de l'année. Les bénéfices sont réels, la demande existe, mais l'ambiance a changé un tout petit peu. Le marché ne se demande plus combien est-ce que je peux gagner, il commence à se demander combien est-ce que je peux perdre. Et dans ma longue expérience des cirques financiers, ce changement de questionnement, c'est toujours le début d'un nouveau chapitre relativement intéressant. Alors encore une fois, je ne suis pas bearish, je raconte ce qui se passe actuellement. Voici donc où nous en sommes. Une guerre au-dessus du détroit le plus stratégique du monde, un pétrole en surchauffe, une Fed qui affûte ses arguments, une tech en crise de foi et un marché qui a passé la semaine à applaudir un chiffre d'inflation périmé, et tout le monde le sait, comme un ami dans sa cuisine en flammes, les yeux rivés sur son thermomètre qui montre que le mois passé, eh bien, c'est pas monté autant que ça la température. L'orchestre du Titanic, lui au moins, il savait qu'il coulait et il avait donc choisi la musique en conséquence. Notre marché, lui, il a mis la playlist du « tout va bien » et monte le son à chaque craquement de la coque. Restez donc prudents, gardez votre café au chaud et vos stops à jour. On se retrouve samedi prochain pour la suite du feuilleton et un nouveau Swiss Bliss. Entre deux, il y aura bien sûr plein de Morning Bull Live comme d'habitude. Et la semaine sera complexe parce qu'il y aura une avalanche de chiffres trimestriels qui seront publiés. On va donc beaucoup parler techno. D'ailleurs, il y aura du Google, il y aura du Tesla, il y aura de l'Intel, il y aura de l'IBM. IBM a déjà déçu et Intel a intérêt à ne pas le faire. En Suisse, on aura les publications de Novartis, de Roche et de Nestlé. Ça va nous occuper. Et puis en Europe, il y aura STM, Thales et BNP. Là aussi, ça va nous occuper. Et puis, puisqu'on cherche des occupations, n'oublions pas que jeudi, c'est le meeting de la Banque Centrale Européenne, de la BCE, avec des taux qui pourraient bien monter, selon Madame Lagarde. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, d'activer la cloche pour ne pas rater la suite, parce qu'une chose est sûre, au moins dans ce marché, c'est qu'il y aura une suite. Et en ce qui concerne cette vidéo, on like, on commente et on partage. Voilà, c'était le Swiss Bliss. Bon week-end à tous. Bye bye.
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.